Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous. 16 mars 2016, 16 mars 2026, ça fait 10 ans, jour pour jour, que donc existe votre radio préférée, Mon Paris FM. On est ravis, contents, en tout cas, que ce soit notre émission Mon Paris Sport qui donc accompagne cette journée d'anniversaire. D'ailleurs, il y a Claude, un des fondateurs, qui viendra un petit peu nous en parler aux alentours de 19h50. Et puis, en plus, on est ravis pour accompagner cet anniversaire ce soir. On a une championne de France et une championne du monde, ni plus ni moins, c'est Myriam Emner. Bonsoir Myriam.
Bonsoir.
Merci en tout cas d'être nos invités, d'être notre invité, championne du monde et championne de France quand même.
Oui, c'est ça. Hein,
ça fait, c'est pas rien quand même. Donc vous nous parlerez un petit peu de votre quotidien et vous pratiquez donc un sport insolite, le raquetlon, c'est ça.
Exactement.
Avec un club qu'on connaît bien, celui du Stade Français.
C'est ça.
Voilà, très bien. Allez. Je vais saluer celles et ceux qui sont autour de la table. Bonsoir Vanessa, ça va ?
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous, ouais. Ça va très bien.
Ouais, ça va ? Une championne du monde, une championne d'Europe, tu connais ?
Bah hein, oui, tout voilà. À fait, on s'est déjà rencontrés.
Voilà, c'est bien ça. Sûr. Bonsoir Théo.
Bonsoir,
comment ça va après cette folle soirée de mercredi ?
Ça va très bien et toi ?
Ah oh, bah très bien, super, hein. On a bien récupéré. On a fait des misères aux Anglais cette semaine, hein, avec le rugby aussi, puis le foot, donc Chelsea. Vous on en reparlera aussi, donc, puisqu'on aura un point sur le tournoi Destination, avant le journal des sports, donc, avec notre ami Thierry Cazalet, grand arbitre de Ballon Ovale. Bonsoir Marius, ça va ?
Bonsoir
toi,
Philippe.
C'est un point foot ?
Ah oui, alors, très chargé.
T'as vu, le Paris Saint-Germain joue pas, ils sont encore en tête du championnat.
Et bien placé pour se qualifier en plus.
Voilà, donc on
est content.
On en reparlera aussi avec notre ami Stéphane Desenclos. Alors, Myriam, question simple. Pourquoi le raquetlon ?
Pourquoi ? Je ne connaissais pas ce sport à la base. Je viens du tennis, donc c'était mon sport numéro 1.
On va faire un petit peu le
c'est
parcours.
C'est ça, parce que raquetlon, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, quand même,
alors
on va peut-être présenter.
Mais on va le dire aussi, hein, c'est le but de l'émission. Mais pourquoi d'abord ce sport ? Il y avait un besoin de se diversifier comme beaucoup ?
Oui, il y avait un besoin parce que j'étais arrivée un peu à un point où je stagnais au tennis. Je pouvais pas.
Stagner au niveau des résultats ou même dans la tête, c'était dire oh, j'ai envie de quelque chose d'autre, je m'ennuie un petit peu maintenant.
En fait, je pouvais pas continuer sur le circuit pro pour raisons financières.
Ah ouais.
Oui.
Donc
après, il y avait vraiment eu un arrêt total du tennis. Plus tard, j'ai commencé le badminton sans arrière-pensée par rapport au raquetlon. Je connaissais pas du tout ce sport. Et c'est dans mon club de badminton où on m'a parlé pour la première fois du raquetlon.
D'accord. Alors, on va remonter un petit peu votre parcours, votre itinéraire. Donc, votre sport, au départ, c'est le tennis.
C'est ça, que j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et après, j'étais en pôle espoir à Dijon pendant plusieurs années.
Ah oui.
J'ai pris une année sabbatique. Je suis montée moins 15 au mieux. Et après, c'est là où c'était un peu plus compliqué sur le circuit pro. Donc,
oui, parce que bon, c'est un peu l'image qu'on a tous du tennis, des champions, des championnes qui gagnent de l'argent. Mais il y en a très peu.
Il y en a 100. Hein, c'est les 100 premiers hommes et femmes. Donc, ça ne fait pas beaucoup.
On l'a vu avec Boisson. Hein.
Exactement. Hein, voilà, elle est bien placée pour le
maintenant,
coup.
Maintenant, c'est tranquille. Mais
si elle se blesse
d'où
pas.
Elle vient, d'où elle vient, voilà, c'était ces mêmes difficultés. Hein. Mm. C'est-à-dire que bah oui, les frais de déplacement, bah, on se les paye, les billets d'avion, les billets de train, les voitures. On n'a pas de sponsor, hein, les portes se ferment. Donc, c'est compliqué.
Il faut tout payer, tout est à nos frais. Et tant qu'on n'est pas dans les qualifs de Grand Chelem au minimum, c'est que de l'argent dépensé. Mm.
Et dans ce parcours de tennis, il y a eu quand même des bons moments ?
Oui, bien sûr. Quand même. Non, bien sûr. Je regrette rien.
Il y a eu quoi ?
Bah, des victoires, des joies, du partage, des connaissances.
Ouais. Roland Garros aussi, par moment, des compétitions.
Les championnats de France,
ouais.
Les championnats de France à Roland Garros tous les ans, de mes 12 ans à 18 ans. Donc, quand
ça
même
doit
des...
faire drôle quand même.
Ah, c'est quand même, c'est génial
ah bah ouais,
d'avoir
c'est
cette
fort,
opportunité. Ah oui, c'est clair. Mmh. Jouer sur les cours, c'est top.
Donc, vous décidez à un moment de dire stop pour le tennis.
Exactement.
Et puis vous partez sur le raquetlon, non ?
Je pars sur le bat déjà.
Ouais. Et pourquoi
sur
le badminton ?
Dans le cadre de mes études en STAPS, je voulais...
être prof de gym alors.
Prof de PS, oui.
Ouais, c'est ça.
Prof de PS, il n'y avait pas tennis au CAPEPS. Et je me suis dit, il faut que je choisisse un autre sport qui se rapproche, où j'aurai pas trop de difficultés dans comprendre la logique.
Ouais, dans l'approche, quoi.
Et ouais, c'est ça, dans l'approche et dans la pratique aussi, parce qu'il y a une note de pratique. Et pour moi, je me suis dit, bon, bah, c'est le badminton qui y ressemble le plus, où j'aurai moins de difficultés. Mais il fallait quand même que, pour avoir une bonne note, que je m'entraîne, que je m'inscrive en club. Et là, j'ai fait première année, donc c'était en L3 STAPS, j'ai fait 120 matchs à peu près.
Oui.
Et les résultats, ils suivaient. Et, et donc, j'ai eu un bon classement. Et c'est là que dans mon club de badminton, on m'a parlé du racquetball pour la première fois.
Vous n'avez pas voulu continuer dans le badminton. Alors, il faut dire, vous êtes, je l'ai dit, un club qu'on connaît bien, qui est le Stade français.
Oui. Hein, alors, le Stade français, c'est venu après. Là, pour l'instant, c'était encore à Dijon.
C'est à côté du Parc des Princes, c'est pour ça qu'on les connaît bien.
Bien sûr.
Ouais.
Et
c'était à Dijon, d'accord.
Ouais, c'était à Dijon, la première partie, tout ça. Et j'ai pas voulu. En fait, il y a eu le Covid, donc ça a fait un peu un arrêt des compétitions au BAD. Mais au départ, effectivement, je voulais continuer ma progression et j'étais un peu fermée sur le racquetball parce qu'il y avait le squash et le tennis de table que j'avais pas pratiqué sur les quatre sports. Donc voilà, ça a mis un peu de temps, mais finalement, j'ai adhéré en juillet 2020 au racquetball. J'ai fait un stage et c'est parti de là.
D'accord. Alors maintenant, vous allez me dire ce qu'est le racquetball.
Le racquetball. Donc, c'est le mélange des quatre sports de raquettes, donc tennis de table, badminton, squash et tennis. En fait, on enchaîne les quatre disciplines.
Ah, vous enchaînez les quatre disciplines.
C'est ça, ouais. Sur un match contre la même personne, un adversaire, on va au tennis de table, on fait un set de 21 points. Ensuite, on va sur le terrain de badminton, 21 points, squash et tennis.
Donc, ça veut dire qu'il faut aussi savoir, bon, le badminton, vous l'avez donc pratiqué, le tennis, mais il faut se mettre un petit peu au tennis de table aussi, puis au squash. C'est un petit peu différent quand même.
C'est un peu différent.
Après, il y a des points communs, mais bon, c'est un petit peu différent.
Il y a forcément des passerelles qui se font, oui. Voilà, déjà physiquement et mentalement, quand on a été bon dans un sport, il y a des, voilà, on a d'autres automatismes qui se créent dans les autres sports, mais c'est vrai qu'il y a une technique et aussi un sens tactique à appréhender.
Alors, en préparant l'émission, je sais qu'Alexis Lebrun, après pratique le racquetball de temps à autre, il s'essaye comme ça.
Oui, c'est vrai qu'il joue aussi un peu au tennis, il me semble. Oui. Et oui, ceux du racquetball France ont essayé de le faire s'inscrire à une compétition, mais je crois que pour l'instant, c'était compliqué avec son programme.
Mais alors, comment vous vous entraînez? Parce que vous faites, je sais pas, une journée, un sport différent. Comment c'est un petit peu le triathlon.
Oui. Hein, non, c'est compliqué. Ça dépend forcément des personnes. Il y en a qui... Il y a des entraînements à Montreuil, au racquetball Montreuil Club, au centre sportif Arthur Ashe, tous les dimanches, où là, il y a les quatre sports de raquettes.
Parce qu'il y a un club, hein, je crois.
Ça, c'est un club.
En dehors du Stade français, il y a...
Ah, c'est un vrai club de racquetball, des entraînements tous les dimanches.
Ils sont beaucoup, non?
Il y a environ 15-20 personnes par session. Et après, ça change d'une semaine à l'autre, selon les disponibilités. Mais oui, il y a de plus en plus de monde qui s'y essaye. Et en fait, donc, il y a les quatre sports de raquettes, de 13h à 17h. Donc 4 heures.
Le tennis, vous jouez dehors ou en indoor ou à l'intérieur?
Là, il y a indoor. Après, l'été, on peut jouer dehors.
Oui, oui. Après, bon, le squash, il faut quand même des salles adaptées.
C'est ça. Et c'est toute la complexité, notamment pour l'organisation des tournois, d'avoir le squash et le tennis pas trop loin. On va dire 5 minutes maximum de voiture, de marche entre les deux, parce que sinon, ça fait un trop gros temps d'attente. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une petite limite dans la... le fait de faire des tournois, parce qu'il faut ces deux infrastructures assez proches. Parce que le tennis de table, on peut mettre une table partout.
Oui.
Et le badminton, soit un gymnase, soit on met les tapis spécifiques au bad. Ça, c'est moins compliqué.
Donc, c'est un sport qui est maintenant officiel, de plus en plus, qu'il diversifie. Alors, j'ai lu qu'il y avait une fédération internationale et 40 fédérations nationales.
Oui, peut-être. Enfin, oui. Si vous le dites, vous avez cherché. Ouais. C'est ça, et on est également discipline associée à la Fédération française de badminton.
D'accord, et donc c'est le badminton.
C'est le badminton, et ça nous permet...
C'est pas comme le paddle qui est au tennis.
C'est ça, paddle, pickleball, c'est tennis, beach tennis aussi. Et nous, non, c'est le badminton, et donc ça nous permet d'avoir au moins un vrai statut et de pouvoir avoir vraiment la dénomination championnat de France qu'on ne pouvait pas avoir avant cette
appellation. Donc là, vous êtes licencié badminton.
C'est ça. Ah, oui. Après, on peut faire du racquetball sans être forcément licencié à la fédé de badminton, mais justement, il y a un accord qui va sûrement se faire.
Et puis il vaut mieux quand même. Hein,
oui, ça va se faire, je pense, dans ce sens-là.
Alors, vous êtes membre du Stade français, vous le rejoignez quand, après Dijon?
Je le rejoins il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans seulement. Là, en squash et tennis.
Oui, bon, on les connaît bien, on les a reçus.
Oui, vous m'avez dit.
Ouais, ouais.
Pascal.
Et vous êtes toute seule à faire ce sport ou alors il y a d'autres
Au Stade Français, ouais. Je suis la seule. Il y a une fille au squash qui avait déjà fait 2-3 tournois de raquettes longues et qui est aussi très forte au badminton. Mais elle a un peu arrêté, mais sinon, oui, c'est la seule.
D'ailleurs, c'est assez nouveau pour le Stade Français hein, d'aller vers cette discipline, j'imagine. Et peut-être qu'ils ont l'intention de le développer. Quels ont été peut-être vos échanges avec le club?
Exactement. Ouais. Il y avait vu que c'est un club omnisport, donc en fait, ça rejoint tout à fait leur logique. Et il y avait effectivement la volonté de pourquoi pas créer une section raquette long. Après, il faut voir comment ça s'organise au niveau de la logistique. Mais c'est vrai que c'était les intéressait.
Ils ont tout. Hein.
Ouais, donc, à voir, c'est une question de temps, même pourquoi pas faire un tournoi, un tournoi national, peut-être même international. Enfin, il y a les moyens, après il faut juste que ça se mette en place et ils ont aussi d'autres projets, il n'y a pas que ça.
Bah, c'est un club qui est très ouvert, puisque Amandine Bouchard, hein, qu'on a eu l'occasion d'interviewer, elle a deux projets là-bas. Et pour le judo et puis pour le rugby à 7, elle a même été obligée de quitter le Paris Saint-Germain. Qui ne souhaitait pas qu'elle fasse les deux projets. Le seul club qui l'a accueilli, c'est le Stade Français. Hein.
Dans leur logique omnisport. Ouais.
Alors, quand on se lance dans ce sport, on y passe combien de temps par semaine?
Ça dépend si on veut des résultats ou pas.
Oui.
Ça dépend le temps qu'on a aussi. Moi, c'est vrai qu'au début, j'ai passé vraiment pas mal de temps. J'ai fait beaucoup de tournois aussi en France, à l'étranger.
Et il y en a partout des tournois, c'est facile?
Il y en a de plus en plus. Là, maintenant, en France, on a un calendrier avec environ 25-30 tournois.
Ah ouais?
Un peu dispatchés partout. Il y en a moins peut-être dans le sud-est, mais sinon, c'est vrai qu'il y en a dans pas mal de régions.
Partout,
et à l'international,
ouais.
Là, j'étais récemment à Hong Kong, il y a deux semaines, pour faire un tournoi.
Oh, d'accord.
Y en a aussi des tournois en Inde, en Nouvelle-Zélande, aux USA, les îles Canaries.
Donc, quand on s'est appelé, qu'on a pris contact pour cette émission, vous n'étiez pas encore parti en Hong Kong, hein?
C'est ça. J'allais partir et je vous ai dit, je ne suis pas disponible les 15 prochains jours.
Donc, alors, ça coûte de l'argent quand même. Mais est-ce que le Stade Français a le sponsor ou participe un petit peu? Allez, vous pouvez.
Le squash, section squash m'a aidé un petit peu l'année dernière après mes mondiaux, je les en remercie d'ailleurs. Après, s'ils veulent participer plus, la section omnisport, merci, je veux bien. Mais c'est vrai que ça coûte aussi de l'argent, donc je suis un peu dans une situation où justement je dois aussi limiter mes déplacements et faire des choix et profiter par exemple à Hong Kong de faire des vacances en même temps que le tournoi. Pour aller les deux,
tant qu'à faire, c'est quand même mieux. C'est comme
nous,
quand on va en reportage à l'étranger, on profite un petit peu.
Vous avez raison, c'est ça.
Mais vous êtes quand même une sportive de haut niveau. On peut vous considérer, vu vos résultats, parce que alors donc, vous débutez et après vous devenez rapidement championne de France.
Championne de France. En fait, championne du monde avant championne de France, parce qu'on ne pouvait pas s'appeler, justement, on n'avait pas la domination, l'affiliation à la Fédé de Bat qui nous permettait d'avoir des championnats de France. Ouais. Donc, les premiers championnats de France, c'était en 2023 et j'ai été championne du monde la première fois en 2022.
D'accord. Et après, championne de France. Donc, à partir de là, on ne peut pas refuser les compétitions, quoi. Quand on est championne du monde, c'est difficile de dire... Non, je ne peux pas venir,
Oui, c'est ça, ça donne envie d'en faire plus et forcément, ça motive. Mais c'est vrai qu'après, le côté financier, on en revient au même comme au tennis. Faut faire des choix et faut calculer.
Alors, la suite, c'est quoi maintenant? Parce qu'à un moment,
Suite,
ça ne va pas pouvoir continuer comme ça.
C'est ça, là, j'ai essayé de demander des sponsors, de trouver un peu, mais justement, en fait, je n'ai pas le statut de sportif de haut niveau.
Oui. Vous l'avez, j'allais dire, officieusement,
oui,
sans qu'il soit officiel,
Mais donc ça, c'est vrai que ça bloque un peu dans le côté sponsoring, donc je ne sais pas trop, mais c'est vrai qu'à part, choisir vraiment mes déplacements à l'étranger et jouer en France, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir en faire autant que je veux.
Oui, donc ça veut dire que dans un an, deux ans, s'il n'y a pas de changement,
c'est
une fin de carrière ou alors...
Ou une réorientation.
Ouais, à nouveau vers le tennis ou badminton ou...
Pickleball, je pense.
Là,
j'ai commencé depuis avril et c'est pas mal aussi.
Alors vous savez qu'on en a parlé sur notre antenne, c'était au mois de novembre. Et puis,
bah, c'est comme ça que je suis.
Oui, c'est pour ça
que je suis là.
Et bah, c'est un sport qui se développe quand même. Moi, j'ai vu des affiches partout. Au salon des sports, il y avait des affiches partout, il y avait des panneaux.
Et déjà l'année précédente, d'ailleurs.
Depuis janvier,
c'est la fédération de tennis qui a récupéré discipline.
Une fédération qui a les moyens.
Ils ont les moyens, ils ont l'envie aussi de faire de grandes choses. Donc, je pense que ça a vraiment explosé en France. Les prochains mois, les prochaines années.
Est-ce que l'idéal, ce ne serait pas aussi justement qu'il y ait de plus en plus de monde qui pratique donc votre sport actuel
pour le racquetball.
Ouais, pour un jour peut-être.
Il faudrait
qu'ils deviennent complètement indépendants à part entière. Quoi.
Je pense qu'il faudrait surtout qu'il y ait quelqu'un de riche, par exemple, qui soit très intéressé par le concept. Mais il y a des gens qui sont intéressés.
Un mécène.
Un mécène et qui aide la fédé internationale.
Je crois que le paddle a commencé un petit peu comme ça.
Sait jamais.
Ouais, bien sûr.
On sait jamais.
Théo, ça t'inspire un commentaire ?
Je sais pas trop, parce que d'un côté, c'est un peu impressionnant ce mélange de différents sports de raquettes, mais d'un autre côté, je sens que c'est un petit peu compliqué, surtout sur la question financière.
C'est pour ça qu'on les invite.
Totalement, mais qu'est-ce qu'on gagne réellement donc, quand on est championne du monde ? Est-ce qu'on gagne quelque chose ?
Rien, elle a signé un tas d'autographes.
Financièrement.
Financièrement. Alors, en 2000, donc j'ai été championne du monde deux fois.
Oui.
En 2022, c'était raisonnable, c'était 2000 euros et quelques.
Okay.
Mmh. Ah, c'est pas les prize money au tennis.
Ou la compétition ou juste un chèque de 2000 euros
un virement de 2000 euros.
Le prize money.
Prize money, oui. En gagnant.
Ouais, d'accord.
En gagnant, pour moi, donc vainqueur. Et mauvaise surprise, j'ai envie de dire, cette année, en 2025, c'était 675.
Ah oui.
Une chute.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ouais, bah le budget, tout ça et tout, la vie est dure. Alors,
c'est ça, les restrictions
budgétaires, même là-bas.
Non, mais c'est vrai que finalement, vous faites des fois du porte-à-porte un petit peu pour dire écoutez, je suis championne, je passe sur des médias, je passe sur mon Paris FM notamment, qui fête ses 10 ans.
Faudra immortaliser
ça. Non, mais ouais, je sais pas, vous pourriez avoir une grande surface, ils le font. Des garages le font, des grandes marques de garages le font. Après, quitte à aller un peu vous exposer sur les réseaux sociaux, faire un petit peu de promo, un petit peu de pub en parallèle, quoi.
Ouais, j'essaye un peu sur les réseaux dès que j'ai des interviews, des podcasts, partager. Ouais. Donc, j'ai déjà fait des demandes aussi, des dossiers que j'ai envoyés par mail, mais bon, c'est compliqué.
Ouais, mais alors, votre quotidien de sportive, donc, vous l'avez dit, vous nous l'avez expliqué, vous allez dans le monde entier. C'est un sport qui est cher.
Oui, c'est cher.
En dehors d'aller faire les compétitions, mais bon, il faut 4
déjà, oui. 4 raquettes.
4 raquettes de 4 disciplines différentes.
En général, squash, personnellement, j'ai 2 raquettes. Tennis, j'en ai 3. Bad, 2 aussi, si on casse le cordage. Tennis de table, une, ça peut passer. Quoique, j'ai déjà cassé une raquette en tournoi.
De colère, non ? Ah non, pas de colère.
J'ai pas fait exprès. En fait, j'étais un peu énervée. J'ai pas jeté la raquette, j'ai jeté la balle.
J'ai
tapé dans la balle et ma raquette a glissé des mains et le manche s'est cassé en deux. Là, on est bien embêté pour la suite surtout que ma raquette a un picot. C'est vraiment une raquette spécifique que je peux pas forcément. Je ne peux pas emprunter la raquette de quelqu'un d'autre et avoir les mêmes sensations. Donc on est bien embêté dans ce cas. Donc ne pas s'énerver, même sur la balle.
Et les habiletés que vous avez développées, je vais dire, en partant du tennis, puis aller au badminton et avec ces autres sports de raquettes, qu'est-ce qui est un peu complémentaire ? Qu'est-ce qui est différent sur le plan
Je pense au niveau des sensations, du toucher. Donc on a une bonne main. La puissance aussi, par exemple au service, donc ça se répercute sur les smash au badminton. La bonne main, ça serait plutôt pour les amortis, par exemple, que ce soit squash ou au bad.
Ouais, c'est ça qui est difficile, il faut quand même les travailler, ça.
Le
changement comme ça, discipline, c'est exactement comme le triathlon, c'est pareil.
C'est ça, il y a des changements de prise, par contre.
Eh oui.
Changement de prise, et puis... il y a toute une partie technique, c'est sûr qu'il faut travailler, mais physiquement, il y a des... Voilà, tout ce qu'on a travaillé auparavant dans un sport, ça nous facilite.
Et le cardio, il est aussi intense ?
Oui, surtout l'enchaînement après le squash, parce qu'on
c'est
a déjà fait le
squash,
bad squash.
Cardio, hein. C'est
le bad aussi, je trouve qu'à niveau égal, avec les smash, les sauts notamment, ça peut vite monter.
Aussi,
les longs rallyes, il y a des longs rallyes. Donc l'enchaînement bad squash, après le squash, on peut être un peu rincé. Et après, ça va, le tennis, c'est c'est pas le même effort.
Oui, oui, je sais pas. Oui, oui. Donc, c'est un sport qui est cher. Faut avoir un jeu. Au niveau de la tenue, c'est à peu près. Par contre, c'est réglementaire, pareil.
Oui, ça, il y a pas de.
Oui. Et vous jouez avec un maillot du Stade Français sur toutes
les
compétitions ?
J'ai un logo. J'ai des maillots avec le logo du Stade Français, oui.
Et il y a beaucoup de clubs en dehors. Donc, vous parliez de Montreuil. Est-ce qu'il y a d'autres clubs en Île-de-France ou même en France carrément ?
En France, on a 9 clubs. Officiel.
Oui, bien.
Donc, Valence, Lille, il me semble, La Roche-sur-Yon. Eux aussi, ils développent beaucoup le pickleball. Donc, il y a 9 clubs en tout. Andrézieux, Royan, il me semble.
Alors, c'est un sport d'origine scandinave. Peut-être qu'un jour, pour en vivre, c'est peut-être la possibilité, c'est de s'expatrier, peut-être.
Non, je pense vraiment qu'il y a... Non, en fait, ça dépend des sponsors.
Ils en vivent de sponsors, ces sports-là, là-bas ?
Non, franchement, il n'y a personne qui en vit. Hein. Tout le monde a un travail à côté. Après, il y a certains joueurs qui ont un sponsor. Je sais qu'un Hollandais, par exemple, il nous disait qu'il avait 5 000 euros à l'année. Mais c'est plutôt, comme on disait tout à l'heure, un mécène, connaissance. Oui. Et donc, il a aidé dans son projet. C'est vrai que ça lui diminue une bonne partie des frais, hein, mais pour en vivre, non.
Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un classement type golf ou tennis ?
Il y a un classement mondial.
Oui, c'est ça.
Donc, plus on fait de tournois, plus forcément on a de chances de monter. Après, plus on gagne dans les gros tournois, plus on a de points. Donc, il y a un classement.
Alors, les tournois, ça marche du 1er janvier au 31 décembre. Vous dites, c'est vous qui faites le choix. Quels sont les tournois les plus importants pour arriver, j'allais dire, en forme dans des championnats de France ou des championnats du monde ? C'est un petit peu comme le tennis, hein. Il y a des tournois, du Grand Chelem, mais on sait que si on va jouer le Monte Carlo, on se prépare bien pour Roland Garros, quoi. Voilà.
Après, vu que nous aussi en France, on a un circuit national qui est bien développé par rapport à l'étranger. Il n'y a pas forcément besoin de partir à l'étranger tout le temps. Et les filles aussi, même s'il y a là, il y a de plus en plus de filles qui ont un bon niveau en France. Mais c'est vrai que moi, au départ, je jouais avec les garçons, même s'il n'y avait pas assez de filles dans un tournoi. Donc, il n'y a pas forcément besoin de tout le temps partir.
Et c'est bien jouer contre les garçons, ça change.
C'est bien, franchement, parce que...
Le tennis, il y a un peu plus de puissance de leur part, fatalement. Mais par exemple, d'autres sports, peut-être un peu
le
moins.
Le bad et le squash, je trouve que pour avoir joué, c'est dur physiquement. Très dur physiquement. Je pense qu'on progresse, mais physiquement, ça reste compliqué. Je dirais que tennis de table et tennis, on sent moins la dimension physique contre les garçons.
Alors, ce sport qui réclame 4 disciplines, vous commencez par quoi ? Tennis de table. C'est en combien de...
C'est 21 points.
21 points, mais une fois ?
Une fois, c'est ça. Parce que, deux services chacun. D'accord. On alterne, on change tous les...
Après,
tous
donc les deux c'est deux badminton.
Badminton, ouais, en 21 là, points aussi.
Une fois aussi ?
Un seul set.
Ah oui, parce que...
déjà.
Après ?
Donc, après squash.
Oui, et là ?
Et après tennis. Alors, à savoir, juste une petite subtilité, c'est qu'à si après le squash, il y a plus de 21 points d'écart, parce qu'en vrai, chaque point compte, il n'y a pas de tennis. Donc, pour les tennisman, tenniswoman, ça peut être compliqué au début si ils n'ont pas un assez bon niveau dans les 3 premiers sports pour aller au tennis. Et c'est toujours comme ça dans n'importe quelle compétition, donc, ça ne change jamais l'ordre.
Alors, un squash, c'est pareil, ça, une seule partie ?
Une seule partie de 21 points.
Et après le tennis,
21 points aussi.
Un set, oui. Et alors, on a combien de repos entre les différents sports ? C'est-à-dire, on termine sa compétition de tennis de table, on doit passer au badminton. Bon, on attend un petit peu. Bon, si ce n'est pas à côté, on prend la voiture.
En général, c'est à côté. Il n'y a, y a pas de voiture.
Mais sinon,
franchement, ça s'enchaîne.
Ah ouais,
on prend la raquette de tennis de table.
C'est un vrai triathlon, quoi.
C'est exactement ça. Le but, c'est justement que ça s'enchaîne.
Il
n'y
a pas un
petit
quart d'heure où on peut...
Non,
triathlon même.
Non, oui, c'est ça, on enchaîne tout.
Ah d'accord.
C'est pour ça que je vous dis qu'entre entre bad et squash, et même squash et tennis, on commence à ressentir...
Oui, parce que sur les bras, j'imagine, comme vous travaillez plusieurs mouvements, enfin plusieurs alternatives, c'est les bras qui doivent quand même... Enfin, il y a le tout, hein, mais les bras doivent quand même être... très sollicité.
Oui,
c'est
sûr.
Et de passer du tennis de table au squash, au badminton et ensuite au tennis, j'ai peut-être inversé l'ordre, mais voilà, le bras va être forcément très sollicité. Et comment vous travaillez pour justement un peu relaxer enfin voilà, avoir un peu plus de lest dans les bras.
Oui, bah comme vous faites, ouais, c'est ça, avec des gestes, voilà. Il faut des fois faire des mouvements, se relâcher, respiration, voilà, pour reprendre ses esprits, se calmer. Et... Mais c'est vrai que c'est très sollicité et le cardio aussi. Enfin,
bah oui.
Et ça, c'est un match et on en a plusieurs dans la journée et plusieurs dans le week-end.
C'est répétitif parce que c'est comment, c'est des matchs directement et élimination directe.
Non, j'ai... Donc c'est ça qui est bien, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est qu'il y a toujours au minimum de 3 à 4 matchs dans le week-end. On ne vient pas pour un match comme un tournoi de tennis classique et on part si on perd. Donc, oui.
Et peut... comment on se qualifie ? Alors on essaie de gagner ces 4 matchs, c'est une forme de classement, de pool ?
En fait, c'est vraiment au point. Donc on peut perdre les 3 premiers sports au niveau des points, 21-19, 21-19, 21-19. Mais si au tennis,
On comptabilise tous les points.
C'est tous les points qui comptent. Des fois, les matchs se jouent à un point.
Parce qu'on a gagné le tennis de table, c'est pas un point. Parce que, c'est 21.
C'est vraiment chaque point compte. Et un match peut se jouer à un point ou deux points. Quand c'est égalité parfaite au niveau du tennis, ça existe. Ça s'appelle le gumi arm. Donc, le match se départage en un seul point. On fait un tirage au sort pour savoir qui va servir. En général, celui qui gagne le tirage au sort, il laisse le service parce qu'il n'y a qu'une seule balle de service. Donc, c'est assez stressant. Et donc tout le match se joue sur ce point-là.
Ah oui, donc d'où l'intérêt de lutter jusqu'au bout, même si on perd 21-6.
Exactement. C'est exactement.
C'est...
Surtout quand on joue. Contre...
C'est comme le rugby avec le point défensif, c'est pareil.
C'est pareil. Non, c'est ça. C'est en fait même quand on joue quelqu'un, on sait qu'il est vraiment plus fort que nous. Ce qui arrive parce que c'est des questions de profil. En fait, on se bat vraiment pour marquer chaque point. Et même si quelqu'un peut perdre 21-5, mais en fait, il va être super content parce qu'il sait qu'il va mettre 21-2 ou 21-3 dans l'autre sport. Et c'est vraiment chaque point qui compte. Et
si
ça qui est très intéressant.
À la fin des 4 parties.
Et bien, c'est ça que c'est. Donc, c'est le gumi arm qui joue au tennis. Tirage au sort. Tirage au sort qui sert. Une balle de service. Et ça, tout se joue là-dessus.
Alors. Ça tombe bien, c'est la transition que je voulais faire. Il y a au moins un point commun entre ces quatre sports, c'est le mental.
Ah oui, il faut un bon mental.
Ah oui, là...
Justement, vu que chaque point compte, il faut garder ses nerfs et il faut être calme. Ouais. Et en même temps, il faut s'accrocher. Donc,
Alors, vous travaillez ce mental ? En dehors de vos entraînements classiques, traditionnels, une sophrologue ou
J'avais fait quelques séances avec une dame qui se formait en psychologie du sport et ça m'avait bien aidé. Après, je pense que n'importe quel athlète qui a fait un sport déjà à bon niveau, qui se lance dans le raquetlon, il a déjà justement ce qu'on disait de ses facultés un peu mentales. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui se garde et du coup
on le dit, on le répète hein, dans tous les sports, tout le monde est motivé, tout le monde veut gagner. Après c'est la gestion de l'événement.
Exactement, entre l'entraînement et le match.
Gérer l'événement,
c'est sûr.
La pression, exactement.
On l'a vu aux Jeux Olympiques, le patinage pour revenir, entre autres, c'est la gestion de l'événement.
William Alini, qui pourtant était totalement prêt, mais
ils sont tous du même niveau.
Il suffit vraiment de pas grand chose pour que vous. Pour que vous puissiez être totalement déstabilisé. Ouais. Parce qu'il a raté un élément capital et après, derrière,
c'était la
panique,
chute.
panique dans la tête et il est perdu. Et donc, voilà. Et pourtant, il est fort mentalement. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que
même à ce niveau-là, c'est ça. Ce niveau-là.
C'est ce qui fait la différence. C'est tous les super champions. Hein, donc, voilà.
Et d'où l'importance aussi, comme je l'avais souligné, quand vous avez un coach et quand vous avez une équipe à ce niveau, aux Jeux Olympiques. Il faut, dans ces moments de haute pression, il faut aussi que l'entourage vous protège bien. Parce que c'est capital. Et en fait, ça a été, je dirais, le point qui, je pense, l'a déstabilisé. Je fais un aparté très rapide.
Oui,
et voilà. Donc, mais l'entourage, quand il y a une telle pression, il doit absolument mettre les barrières. Ça,
vous avez un coach particulier ?
Pas de coach particulier, non, mais en fait, dans ce sport, on est vraiment assez autodidacte, quoi. Donc, on peut avoir des coachs...
En tennis, on a un entraîneur.
On peut avoir... En fait, si on fait
en
des séances...
En badminton aussi, je suppose.
En badminton, bien sûr, oui.
Oui, il y a des entraîneurs dans les clubs, mais après, pour ce sport-là, enfin, il n'y a pas vraiment de coach pour l'instant qui
n'est pas assez développé pour l'instant.
Oui, les parents, ils aident. Non, mais c'est vrai, ils soutiennent mentalement. Donc, c'est important, de se sentir soutenu. Mais il n'y a pas de coach particulier. Même en équipe de France, on n'a pas un coach.
Vous n'avez pas en équipe de France. Oui, parce que vous êtes combien quand vous allez en équipe de France? Vous vous regroupez quand même?
Oui, on se regroupe. En fait, il y a plusieurs équipes de France, donc de plusieurs niveaux. Et là, je pense qu'on avait 7 équipes cette année ou l'année dernière. 7 équipes d'environ 6-7 joueurs, entre 6 et 8 joueurs. Mmh. Mais en élite, on est 8 joueurs. Quoi.
Voilà. Alors, vous êtes obligés de vivre ensemble quand même?
Non.
De partager les stages, ah ouais?
Non, il y a un stage qui s'est fait justement grâce à l'aide financière de la Fédé de Bad en amont des championnats du monde.
Ensemble, le soir, vous mangez pas ensemble?
Ça, en stage, si. Avec les équipes les joueurs de l'équipe 1 et 2.
Oui, on est quand même obligé de partager du temps ensemble.
Mais pendant une semaine. Oui, donc, c'est pas pendant une période prolongée. Non. Et après, c'était les championnats du monde.
Bah oui. Allez, vous aimez tous les sports, non?
Bah bien sûr.
Ouais. Alors on va marquer une petite pause, on aura un point rugby, ensuite ça sera le journal des sports, et puis on reviendra avec vous, et puis après ça sera le point foot. Allez, on y va.
Super.
La musique, je crois que c'est une musique de votre choix. Hein. On a aussi, parmi les pauses musicales, on vous a aussi choisi une musique de votre choix. Ouais. 19h35 minutes. On est en train de joindre, d'essayer de joindre notre intervenant pour le rugby. En attendant, pour le rugby, on va donc Théo parler d'un copieux journal des sports comme chaque semaine. Mais alors, quelle actu sportive, sauf le rugby, puisqu'on va essayer d'en parler.
Et merci Philippe. On ouvre ce journal des sports par du sport mécanique. Hein. Tout d'abord, première victoire en carrière pour Kimi Antonelli sur le Grand Prix de Chine. L'Italien de Mercedes devient par la même occasion le deuxième plus jeune pilote à remporter un GP. Il termine devant son coéquipier George Russell et Lewis Hamilton. Dans un rallye du Kenya à rebondissement, le japonais Takamoto Katsuta s'est imposé et tient sa première victoire en WRC. Le pilote de chez Toyota a devancé Adrien Fourmeau et Sami Pajari. Au classement pilote, Elfyn Evans est aux commandes avec 66 points devant Oliver Solberg 58 points et Takamoto Katsuta 55 points. Sur le classement constructeur, aucun suspense néanmoins. Toyota est devant avec 117 points, loin devant son dauphin Hyundai et ses 66 points. On passe au cyclisme et la victoire de Jonas Vingegaard sur le Paris-Nice. Le Danois s'impose au général avec une avance impressionnante sur ses poursuivants, 4 minutes 23 hein, sur le Colombien Daniel Martinez. Le Français Lenny Martinez a tout de même surpassé Vingegaard au sprint sur la dernière étape de la compétition à Nice. On file au tennis de table avec la victoire de Félix Lebrun en simple WTT Champions de Chongqing en Chine. Le Français a décroché son deuxième titre en dominant en finale le Chinois Wen Rubio, 27e mondial. Un bilan frustrant pour l'équipe de France aux Jeux paralympiques d'hiver. Notre délégation revient d'Italie avec 12 médailles et termine à la 6e place. Alors sur ces 12 médailles, 4 sont en or, 4 en argent et donc si je ne me trompe pas, 4 en bronze. Anthony Chalençon a ramené la 12e médaille française ce dimanche en remportant le bronze sur le 20 km en ski de fond. Toujours en sport d'hiver, suite de Coupe du Monde de ski alpin à Courchevel, l'Autrichien Craig Meyer s'est imposé sur la descente devant Franzoni et le Suisse Odermatt. A noter l'annulation du Super G en raison de mauvaises conditions météo. Une suppression qui assure à Marco Odermatt de remporter son 4e petit globe de la spécialité en carrière. Par ailleurs, le skieur Alexis Pinturo, plus grand palmarès du ski alpin français, a annoncé ce samedi la fin de sa carrière à la fin de la saison. À Åre, en Suède, Julia Scheib s'est imposée sur le géant tandis que l'américaine Michaela Schifrin a remporté le slalom ce dimanche devant Eicher l'allemande et la Suissesse Holdener. En biathlon, maintenant sweep de la Coupe du Monde à Otepää en Estonie. Emilien Jacquelin termine deuxième sur le sprint 10 km derrière le Norvégien Laigrid. Chez les femmes, Julia Simon s'impose sur le sprint devant l'Italienne Vitozzi et Lou Jamono. Sur la poursuite maintenant, Jacquelin termine une nouvelle fois deuxième derrière Laigrid tandis que Vitozzi remporte l'épreuve chez les femmes. Jamono termine en troisième position. Course à oublier malheureusement pour le relais mix français qui termine huitième. La Suède remporte l'épreuve devant la Suisse et les États-Unis. Petit mot d'athlétisme et le 15e record du monde battu par Armand Duplantis. Le Suédois a passé la barre des 6m31 cette fois. Basket maintenant, 31e journée d'Euroleague. Victoire sur le fil de Monaco 81-80 face à l'Olympiakos. Paris remporte le duel français contre l'Asvel 90-81. Au classement, Monaco est 8e, Paris 16e et l'Asvel toujours lanterne rouge. Dans le championnat de France, 22e journée et victoire de Nanterre 102-88 à domicile contre Strasbourg. De son côté, Paris chute face à Dunkerque. Au classement, Nanterre est toujours deuxième, juste devant le Paris Basket. 14e et dernière journée de Ligue des Champions handball maintenant. Le HBC Nantes remporte son match face à Berlin 37-34 et passe 4e du groupe A. Les Nantais affronteront en 8e de finale Goudmet. Même position pour le PSG après sa victoire 34-26 face à Magdebourg qui affrontera Vesbrem dans la suite de la compétition. En championnat français, 20e journée et victoire du PSG 39-21 sur Toulouse. Les Parisiens sont toujours premiers au classement. Dans le championnat féminin, le Paris 92 s'impose 29-25 face à Besançon et pointe à la 9e position au classement après 17 journées. Et on referme cet abondant journal des sports par du volet. 25e journée de championnat masculin et victoire du Plessis Robinson 3-1 face à Tourcoing. Même résultat pour le Paris Volet qui s'impose 3-1 contre Saint-Nazaire à domicile. Au classement, le Plessis est 7e tandis que le Paris Volet est 9e. Et enfin, dans le championnat féminin, 25e journée et victoire 3-1 de Levallois Paris sur France Avenir. Les Mariannes sont 3e au classement.
Merci Théo pour cet abondant journal des sports. Est-ce que Thierry Cazalet m'entend ? Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir.
Ah bah voilà, tout va bien. Bonsoir. Thierry. Alors, on essayait de t'avoir, on avait un petit problème de connexion, mais tout s'est arrangé. Ça tombe très bien parce que je voulais quand même parler de l'événement hein, de ce week-end sportif. Ce match de rugby gagné par l'équipe de France, hein, 48-46. Oh là là, que d'émotion hein, Thierry.
Ah, il fallait pas être cardiaque ce soir-là. Hein. Effectivement, beaucoup d'émotions, beaucoup de stress.
Ouais.
Mais bon, victoire quand même, à l'arraché, bon, très très dur, et puis bon, beaucoup de progrès à faire aussi, hein, ce qui concerne l'équipe de France, hein, c'est...
Oui. Oui, justement.
Donc, c'est on est capable de tout faire, hein, mais seulement avec, pour moi, hein, des temps de jeu très forts et une descente rapide en temps de scie, quoi. C'est ça qui malheureusement, peut nous pénaliser pour la prochaine Coupe du Monde. Il faut qu'on soit plus constant sur les phases de jeu, c'est-à-dire sur toute la longueur du match, quoi. Il faut vraiment qu'on se remette tout en question et pas relâcher la pression. Alors, est-ce que c'est de la fatigue, est-ce que c'est je pense pas, parce que quand ils veulent mettre un coup de collier, ils savent le faire, hein, et avec panache en plus, donc d'où les deux ou trois dernières minutes où on les a quand même mis sur le reculoir. Bon, voilà, bon, mais l'avenir, c'est bien de gagner le tournoi des nations, ils le méritent, mais voilà, c'est la Coupe du Monde, à mon avis, il faudra qu'on la décroche un jour.
Et oui, j'espère bien, moi aussi.
Il faudra qu'on soit un peu plus fort, quoi.
Oui. Alors justement, bon, c'est quand même donc le 28e tournoi des nations que l'on gagne dans notre histoire, Thierry. C'est le 3e en 5 ans, c'est le 8e depuis que le rugby est passé, donc le tournoi est passé à 6 équipes, hein, c'est-à-dire le 6e depuis l'an 2000. C'est le premier doublé depuis 2006-2007. Bon, même si on a eu 10 grands chelems dans notre histoire, on a quand même le sentiment que tout n'a pas été parfait, à l'image de ce match contre l'Écosse, hein, perdu 50-40, et je pense que c'est un match qui va quand même rester dans les esprits, malgré la victoire française dans ce tournoi 2026.
Oui, tout à fait. L'Écosse, elle l'a payé contre l'Irlande. Hein. Je pense qu'ils ont tellement donné ce jour-là contre nous que peut-être là, il y a vraiment de la fatigue. Mais le rythme de jeu qu'ils ont, pour 55 minutes de rythme qu'ils ont imposé à la France ce jour-là, nous, on n'est pas capable de tenir ces 55 minutes pour l'instant, comme a fait l'Écosse.
La semaine dernière. Quoi.
Voilà, c'est l'Écosse, ils ont fait leur match de leur vie, je pense, là. Ils n'en feront pas 36 comme ça. Voilà, maintenant, à nous, à jouer un peu comme ça, quoi. Essayer de prendre cet exemple-là, parce qu'on est capable de le faire. Mais je reviens toujours, pareil, sur des phases de jeu bien plus longues. Il faut qu'on tienne maintenant, qu'on arrive à tenir les 50 minutes à fond, quoi, au moins. Quoi. C'est, c'est ce qui fait la différence.
Oui. Parce que c'est vrai que ça a été un drôle de tournoi quand même. Hein. La vérité d'un jour n'a pas été forcément celle du lendemain. On l'a vu, on parlait de l'Écosse qui a fait une véritable démonstration. C'est peut-être même la défaite la plus lourde, hein, sous l'ère Galtier. Véritable démonstration de cette équipe d'Écosse. Et puis après, effectivement, contre l'Irlande, une toute autre équipe. Bien que l'Écosse est une équipe souvent qui a deux visages. Hein. Autant elle est difficile à jouer à domicile, autant à l'extérieur, c'est plus complètement la même équipe. Mais on a vu l'Irlande qui commence très mal la compétition, puis qui se retape en fin de tournoi. À l'inverse, nous, on commence très fort et puis on a eu un petit peu plus on a été un peu plus en difficulté. Et puis des Italiens qui ont quand même marqué des points, qui ont quand même battu des grosses nations, même si malheureusement, c'est pas un pays de rugby et bon, il manque ce réservoir pour que les Italiens puissent franchir un palier supplémentaire. Et les Gallois qui se battent et qui ont réussi quand même à mettre fin à une série d'invincibilité, même s'ils sont dans une période un peu difficile.
Eh oui, mais tu vois, les Gallois, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Hein. Oui. Il y a quelques années, ils étaient très forts.
Ah oui.
L'Italie, par contre, d'année en année, si tu veux, tu as vu, d'année en année, ça. Et bien, ils progressent doucement, mais sûrement. Je ne serais pas étonné qu'un jour, ils nous battent à force.
Ils nous ont battus déjà deux fois.
Sur un match,
c'est arrivé,
ils sont capables de tout.
Oui, ouais, bien sûr.
Mmh. Voilà, bon. Chacun, nous pour l'instant ça va, nous on est sur la... On a eu des creux aussi. Hein.
Oui,
nous,
mais enfin...
On est sur la...
Oui. Depuis l'arrivée de Galtier, quand même, on a une constance régulière. Hein. Deuxième en 2020, deuxième en 2021, on fait le grand chelem et on gagne le tournoi 2022. Deuxième 2023-2024, premier 2025-2026. Donc voilà, les chiffres, pas quand même pour nous. On peut même aligner deux équipes. Mais malgré tout...
Ah oui, tout à fait.
Hein, cette année, il y a eu des lacunes quand même. Hein. Malgré tout, il y a eu quelques lacunes cette année, défensivement.
Oui, oui. Et oui, parce qu'il y a le championnat de top 14 aussi. Il faut considérer les types. Il faut voir le rythme... De matchs qu'ils font dans une saison. Hein.
Ouais,
l'avantage de Galtier, c'est que ils donnent la chance à tout le monde, quoi. Des jeunes, donc ça tourne, et comme tu dis, on pourrait avoir deux équipes de France, ça serait bien.
Oui.
Mais c'est ce qui se passe d'ailleurs, ils font beaucoup tourner, on a des jeunes qui poussent derrière, et ce qui va faire notre force, c'est que le titulaire va être remplacé par un aussi fort que lui, c'est l'avantage de Galtier, c'est qu'il fait confiance à tout le monde, il intègre, et puis si ça ne va pas, il va en chercher un autre. Hein,
Ouais, je pense qu'on compare un petit peu à Didier Deschamps dans sa gestion de l'événement. Hein. Il a apporté un plus quand même au niveau de la gestion de l'événement quand il est arrivé à la tête de l'équipe de France fin 2019.
Oui, et en plus, oui, tout à fait. Et en plus, comme lui, c'est un meneur d'hommes. Hein. Il a été meneur d'hommes en tant que joueur, il a été meneur d'hommes en tant qu'entraîneur. C'est un battant, c'est un type qui a toujours été c'est un sacré joueur, parce que c'était un joueur qui n'aime pas perdre. C'est un meneur, quoi. Donc, automatiquement, je pense qu'il doit leur mener un peu la vie dure, hein, sur le train d'entraînement. Hein.
Ouais, c'est sûr. Puis on l'a vu avec des datas, des entraînements, enfin une préparation et un suivi quand même complètement différent, et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté à cette équipe de France. Donc on va quand même finir pour rappeler donc que l'équipe de France, elle avait commencé en battant nettement l'Irlande 36-14. Ensuite, elle a laminé le Pays de Galles donc à Cardiff 54-12. Victoire 33-8 contre l'Italie. Et puis effectivement, cette défaite 50-40 face à l'Écosse, avant une victoire samedi dans un match fou 48-46. On va quand même rappeler, pour compléter le journal des sports de Théo, que l'Irlande a battu l'Écosse 43-21 et que le Pays de Galles, donc je l'ai dit, a gagné enfin son match, a mis fin à 15 matchs d'invincibilité, de défaite, donc a mis fin donc à ces séries de défaites en étant enfin invincible sur ce match et en battant l'Italie 31-17. Et le classement final, donc la France s'impose avec 21 points devant l'Irlande, deuxième 19. Troisième, l'Écosse, 16 points. Quatrième, l'Italie, 9 points. Cinquième, l'Angleterre, 8 points. Et sixième, donc, le Pays de Galles, 6 points, qui, avec cette victoire, évite la cuillère de bois. Dernière question, Thierry. On voit quand même beaucoup d'essais dans le rugby moderne actuellement, sur ce tournoi. Des défenses peut-être un petit peu plus friables. Mais c'est l'évolution du rugby qui est comme ça maintenant ?
Eh bien, disons que c'est sûr qu'en défense, là, sur le match de l'Angleterre, surtout derrière, on était fébrile.
Oui.
Il y a des trucs qui se forment, je sais pas comment ils s'entendent entre eux, mais à un moment donné, il y a des portes qu'il faut fermer. C'est pas normal qu'un joueur il passe trois types pratiquement sur la même action. Oui. Pour revenir au match de l'Angleterre, le tournant du match, à mon avis, c'est sur le l'essai de pénalité que l'arbitre accorde avec la double sanction et le carton jaune. Oui. Je pense que là, c'est le gros tournant pour nous. C'est ce qui, je pense, nous a sauvés. Mm-hmm. Pour moi, c'est sévère. Hein. Pour moi, c'est un peu sévère.
Et c'est l'arbitre qui parle. C'est l'ancien arbitre de rugby qui parle.
Pour moi, c'est un peu sévère la double sanction, parce que ils disent que l'essai aurait été marqué. Moi, pour moi, c'est pas évident, pas sûr, mm-hmm, pour moi, mais bon, de toute façon, il y aurait une faute, parce qu'il le prend quand même à la tête et tout ça, bon, il y a faute, c'est sûr,
ouais,
mais c'est pénalité, j'étais assez surpris.
Mm-hmm.
Le carton jaune, oui,
ouais,
la pénalité, oui, bien sûr, mais c'est pénalité, c'est... Tant mieux, hein, ça nous sourit, ouais, hein, des fois, ça nous sourit pas, hein, pour une fois, on a de la chance, mais tant mieux.
Très bien.
Mais je pense que s'il n'y aurait pas eu ça, mauvais temps pour nous.
Eh bien, ça s'est bien fini. Merci Thierry, en tout cas, pour ta disponibilité. On va aussi
saluer... Merci à toi, Antoine,
ouais,
pour transmettre tes jolies émissions de sport.
Ah, c'est sympa. Merci Thierry. À très bientôt.
Allez,
merci en tout cas.
Ciao.
Voilà. Et puis, on va saluer J. Schmitt et puis Julien Combe, hein, qui nous écoutent et qui avaient été aussi des intervenants donc, les années précédentes concernant le tournoi Destination. Alors, on a une chance énorme. C'est les 10 ans de l'émission. Et je suis content que Claude soit là ce soir. Bonsoir Claude.
Bonsoir Philippe.
D'abord,
bonsoir,
est-ce
team,
que t'aimes le sport?
Bonsoir tout le monde. Alors j'aime le sport, je ne pratique pas, mais j'aime le sport, j'aime le foot, j'aime le rugby.
Oui, bah c'est bien, tu vois.
Et voilà, je buvais les paroles.
Ah oui.
Moi j'ai peut-être une petite truc quand même par rapport au match justement, que ce soit foot, rugby, tout ça. Je trouve que les Français, on est très très inconstants. C'est-à-dire que ça rejoint ce qu'on vient de dire.
On est des latins. Hein.
Voilà, on peut monter très haut et puis se casser la gueule, repartir. Si tu prends les Anglais, ils se sont cassés la gueule et puis pour l'instant ils ont du mal à remonter. ce qui me fait plaisir, personnellement. Mais, et puis on l'a vu avec le match du PSG aussi, d'ailleurs. Mais c'est vrai que nous, quand on prend les sports d'équipe, eh ben, on est comme ça, on est en dents de scie. Il
faut qu'on soit dos au mur, quoi.
Voilà,
c'est
exactement.
Ça.
On est, si on ne se met pas de pression, on n'arrive pas à gagner. C'est fou, ça.
Hein. Bah ouais.
Et ça, c'est pour tous les sports d'équipe. Si tu prends le hand, tu prends le basket, tu prends le foot, tu prends le rugby. Et je trouve qu'on a une façon de réagir. Alors, c'est bien, ça peut servir de moteur. Mais quelque part, c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est notre, notre ADN.
Oui, c'est notre ADN. Et puis, bah, nos amis anglais, on leur a joué un sale vilain tour cette semaine entre Chelsea et puis l'équipe anglaise Paul Ballon-Ball.
Je déteste pas, moi,
j'aime bien. On l'aime bien. Alors, je t'ai appelé parce que bon, le sport a beaucoup contribué à l'essor de la radio, d'une façon générale. On fête les 10 ans de mon Paris FM.
Aujourd'hui.
Oui, oui. Jour pile, hein, 16 mars 2026, t'en es un des créateurs. Comment est venue cette idée?
Bah, comme toute idée, c'est de la passion. C'est de la passion.
Ah, oui, j'aime bien ce mot-là.
Voilà, c'est la passion de la radio.
Je suis embêtant avec ça, mais j'aime bien.
C'est la passion du quartier. C'est la passion de donner la parole aux gens qui ne l'ont pas. Et tout ça ensemble, ça a fait qu'il y a trois personnes qui un jour se sont réunies dans un bureau. Votre serviteur, Michel Boudeliou et Daniel Mendy, qui nous écoutent. Et on a proposé l'idée. Et puis, ça a commencé à monter en pression. Et puis, on a créé notre truc. Alors d'abord, dans le petit réduit qui est de l'autre côté où il y a la technique.
J'ai fait quelques émissions là, moi aussi.
Voilà, donc j'ai ramené une première table. Et puis, on a percé un trou pour tirer des fils de l'intérieur. Et c'est parti comme ça. Et je passais plus de temps à quatre pattes pour aller mettre des fils que derrière le micro. Ouais,
comme nous tout à l'heure. Hein,
voilà, je t'ai vu, ça m'a fait rire en arrivant. Mais voilà, c'est venu de ça. C'est venu de la passion de la radio. Et puis j'adore ça. Et puis Michel aussi. Et puis Daniel aussi. Et puis, notre idée, c'était de faire une radio avec les habitants.
Bah, bien sûr.
C'était pas la radio de Claude, de Michel et de Daniel.
Quel but, hein.
Voilà, c'était... Et ça a pris. Ça a mis du temps. Et ça a pris. Et puis, c'est monté en puissance. Et puis, on a commencé à faire des émissions politiques. Et puis, on a invité des gens qui n'avaient rien à voir avec le centre. Et puis, au fur et à mesure comme ça. Et puis, on s'est développé avec le lycée Galilée à côté, avec le lycée Ponticelli de l'autre côté, avec l'école de la Deuxième Chance. Comme ça, on a fait venir des gens dans le centre. Et puis surtout après, on a réussi à faire venir des petits jeunes, ce que nous, on appelait les petits jeunes. Oui. Il y en a autour de la table aujourd'hui.
Oui.
Et ces petits jeunes, eh ben, on les a vus monter en grade. Et puis, c'est devenu des super bons techniciens, des super bons journalistes.
Absolument.
C'est devenu des gens superbes.
Quelle fierté d'accompagner tout ça.
Hein. Absolument.
Vas-y. Ouais. Et toi, tu dois être fier 10 ans après, là.
Alors, je suis fier, mais surtout, je suis content.
Oui.
Je suis content. Il y a de la fierté, parce que c'est vrai, quand on voit ce studio... Imaginez-vous, ici, c'était tout noir, il y avait des instruments de musique. Maintenant, c'est beau, c'est très moderne et tout. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine fierté. On a vu cette radio grandir. Si on prend la radio d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec la radio de départ, ce qui est normal.
Bien sûr.
Mais surtout, on voit des émissions complètement différentes. On voit des sujets différents. On voit des animateurs. On voit des intervenants. C'est réellement une fourmilière. Et moi, j'adore. Franchement, je suis hyper content. Ce n'est plus du tout la même radio.
Non.
Et puis, c'est vrai que quand on parle de Montparnasse FM dans le quartier, même dans le 13e, c'est connu.
Oui, bien sûr.
C'est connu, c'est reconnu. Et puis, quand on regarde les chiffres d'audience, d'ailleurs, bravo à Montparnasse Sport, parce que franchement, vous avez des...
On fait tout pour. Hein.
Oui, c'est réussi. Et j'en profite, si tu veux bien, pour vous féliciter.
Ouais.
Parce que pour la première fois, j'ai écouté deux mi-temps de suite sur Paris Saint-Germain-Chelsea.
Ouais. J'allais en parler tout à l'heure pour le pauvre foot,
Si tu me permets.
Non, mais vas-y, c'est très bien.
Vous avez été excellent. Et aussi bien pour les commentaires pendant le match qu'à la mi-temps et après au débrief qui n'était pas trop long. Il y avait Abou, il y avait tout le monde.
Oui.
J'ai beaucoup aimé. Et puis, je voudrais faire une petite mention spéciale pour la personne que nous, dans notre émission, on appelle Monsieur Théo. C'est pas Théo, c'est Monsieur Théo. Parce qu'il a été très très bon, mais le deuxième présentateur aussi. Mais c'est vrai que j'avais une certaine fierté.
Ouais,
tu parlais de fierté,
mais
de l'entendre. Et je voulais vous féliciter, toute l'équipe, parce que vous avez été excellent.
Et tu veux que je te dise un secret?
Vas-y.
Il m'a envoyé des textos régulièrement, tout ça et tout. Mais j'ai dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, Théo.
Ah, normal,
t'inquiète pas.
C'est
non,
un baptême
c'est
de feu. Ouais.
Non, mais c'est normal. Voilà,
c'est gentil, merci.
On le dit entre nous, mais c'est
vrai. Non, mais c'est vrai, je le pense réellement.
C'est bien. Alors, voilà. Quel genre de choses qu'on a déjà faites pour le mondial et puis l'euro de foot qu'on va refaire et qu'on va refaire également au niveau du Paris Saint-Germain. C'est vrai que la radio, c'est avant tout la proximité, l'instantanéité. Il faut aimer les gens pour faire de la radio.
Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut aimer les auditeurs,
aimer les gens qui sont derrière. C'est eux derrière.
C'est eux. S'il n'y a pas les auditeurs, on n'existe pas du tout.
Ça, il faut jamais l'oublier.
Absolument. Et quand tu t'adresses au micro, en fait, tu t'adresses à une population, tu t'adresses à des gens, tu t'adresses à ta famille, tu t'adresses à tes amis, mais tu t'adresses à des gens que tu ne connais pas. Donc, il faut que tu te fasses comprendre, il faut que tu arrives à avoir des mots qui passent, et puis il faut que tu aies une passion.
Oui,
on parlait de passion tout à l'heure. Si tu n'as pas la passion, ce n'est pas la peine d'aller derrière le micro. Mais on voit bien ici, quand vous intervenez tous, vous avez la passion de votre sport, la passion de l'instant que vous avez passé sur un stade, la passion de... Bah, de votre famille aussi, parce que c'est votre famille aussi qui vous accompagne dans le sport. Donc on le ressent, ça, on le ressent très bien au micro.
Et, et puis, c'est aussi donner la parole aux gens, mais ça, c'est voilà, les invités, mais aussi les très nombreuses interviews qu'on fait. Il faut que les gens parlent, d'où le succès des podcasts.
Tout à fait. Tout
oui, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, bah oui, il y a ce côté intimiste, il y a ce côté proximité, et la radio, c'est ça. C'est avant tout ça.
C'est tout à fait ça, et puis je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup évoluer. J'ai l'impression que les podcasts vont prendre de plus en plus d'importance. Ça en prend déjà.
C'est déjà le cas, oui.
Voilà, c'est déjà le cas, et je pense que les podcasts de Mon Paris FM vont aussi évoluer. On va prendre peut-être des petits extraits par-ci par-là qu'on va mettre, on en a parlé avec Daniel, qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, on va faire un certain nombre de choses.
Ils servent à ça, les réseaux sociaux.
Voilà, tout à fait, et je pense que c'est une bonne idée, et c'est vrai que c'est vivant, ça fait du bien, et puis on adore
c'est
ça.
C'est ce que les gens retiennent, hein. L'instantanéité, la spontanéité. Les conneries, on en raconte tous. Mais bon, ce qu'ils retiennent, c'est ça. C'est cette spontanéité, ce message qui en ressort.
Bah, tout à fait. Et puis la spontanéité, c'est, c'est notre cœur qui bat en même temps.
Ça,
c'est le fait de pouvoir m'adresser à Théo, de le charrier un petit peu, de voir comment il réagit. Puis du coup, il me charrie aussi. Et c'est spontané. Bon. Il essaye, mais bon, je ne me laisse pas faire, on ne peut pas croire. Ouais, hein.
Alors, justement, ça tombe bien parce que tu as lancé une émission il n'y a pas longtemps, c'est chaque mercredi, à laquelle participe Théo.
Tout à fait. Alors, ça s'appelle En direct du 13. Oui. On a voulu avoir une émission qui est ancrée dans le 13e arrondissement, où on met en avant toutes les associations du 13e arrondissement. Et ça nous permet de montrer un petit peu la vie qu'il peut y avoir sur le territoire. Alors, pas simplement dans les quartiers prioritaires comme le nôtre, parce qu'on va s'ouvrir sur l'ensemble de l'arrondissement. Et on va s'ouvrir aussi ce qu'on va appeler les institutionnels. Donc, on va faire venir la Maison des Associations, on va faire venir le Centre Médical Edison. On va comme ça s'ouvrir de plus en plus. Et peut-être, alors là, c'est peut-être un scoop, on va peut-être développer plusieurs matinales, on va peut-être avoir une matinale par jour. Avec
c'est un vieux rêve, ça.
Avec peut-être des intervenants différents chaque jour. Mmh. On commence à y réfléchir. Je pense que M. Théo est dans dans la boucle aussi.
Bon, c'est un travail d'équipe, la matinale. Hein.
Voilà.
Ça demande beaucoup de monde. Hein.
Ça demande du monde et puis ça demande une préparation. Moi, je peux dire chaque émission, c'est entre 8 et 10 heures de préparation.
Ah, mais ça ne m'étonne pas.
Voilà, puis je vois Théo aussi, enfin pardon, Monsieur Théo. Non, je vais pas arrêter. D'ailleurs, je pense que vous allez l'appeler Monsieur Théo après.
Ah bon,
vous allez
voir. Très arrogant, mais c'est pas moi qui ai choisi. Hein. C'est pas moi qui ai choisi. Hein.
Non.
Je subis ce surnom.
Bon, subir, faut pas exagérer, Théo. Donc, en fait, c'est de la préparation, mais c'est. Là aussi, c'est une joie de faire de la préparation parce que quand on fait venir une association, tu peux pas. Bah, c'est comme vous le foot. Il faut regarder, il faut être là et puis il faut connaître la personne que tu viens en face, qui vient en face. Et donc, c'est passionnant. C'est passionnant.
Ouais. Bon, Myriam, qu'on a eu championne de France et championne du monde de raquettelon. Eh oui.
Enchantée.
Ouais, ouais.
Enchantée.
Bon, ces bons mots, ça vous inspire?
Oui, bah, franchement, je trouve ça génial et je suis d'accord. Les podcasts, ça prend beaucoup d'importance, on le voit. Notamment les sportifs de haut niveau qui parlent de plus en plus, qui font pas mal d'interviews. Et là, la radio, je trouve ça génial. D'ailleurs, merci encore de m'avoir invité. Je trouve ce format...
On est là pour ça.
Stop et bonne continuation à vous pour la suite. Mais ça annonce de belles choses avec de beaux projets, en tout cas.
Ouais. Dernier petit mot, Claude. Comment tu vois la suite de la radio? La radio-télé, non? Le même mythe. Hein.
Je vois la suite de la radio, effectivement.
Le multimédia?
Voilà, avec du multimédia, avec un petit peu de caméra quand même qui se balade, avec beaucoup plus de micro-trottoirs. Je pense que ça, ce serait une bonne chose.
Ah oui.
Avec des émissions politiques plus centrées sur le 13e arrondissement. On va essayer de faire ça aussi. Et puis avec une petite sœur. Avec une petite sœur qui pourrait s'appeler la chaîne des quartiers.
D'accord.
Qui serait une petite chaîne de télévision aussi, qui s'appuierait un petit peu sur Mon Paris FM.
C'est pas le même truc. Hein.
Mais c'est pas la même chose.
Ah,
je suis très radio.
Ah oui, oui.
Je resterai très radio, mais il faut s'ouvrir à plein de choses.
Oui, oui. C'est des contrats avec la radio. On peut venir en pyjama, en maillot. Non. Pas rasé et faire l'émission, quoi.
Il est bon, votre pyjama.
non, mais c'est vrai.
On est d'accord.
C'est l'avantage, quoi.
Ouais, ouais. On est d'accord.
La radio, la télé, c'est plus figé, mais enfin bon.
C'est vrai, mais il faut pas se.
Non, bien sûr.
Je vais te dire, la phrase qu'on avait tous au départ, c'était « on ne se refuse rien ».
Oui, c'est bien.
Et cette phrase, on l'a gardée, et donc on ne se refuse rien. Et je pense qu'ici, un jour, dans ce studio, on aura des caméras, on aura une autre possibilité de lancer des jingles et ainsi de suite. Tout ça, ça va évoluer. Comme ça a déjà évolué en 10 ans, on se redonne rendez-vous dans 10 ans,
d'accord,
comme dit la chanson.
Le rendez-vous est pris, Claude.
Voilà, et on verra ce que ça donne. En tout cas, merci de votre invitation.
Ah, c'était super. Et puis, on te donne rendez-vous et aux auditeurs, mercredi donc.
Alors, pas ce mercredi-là, parce qu'il y a Mon Paris Santé qui prend le studio. D'accord. Mais mercredi suivant, d'accord, tout à fait.
Très bien. Et puis des émissions en podcast, hein, comme toutes les émissions. Hein.
Absolument, voilà. Et avec un grand merci pour la technique.
Voilà, allez, ben justement, merci Jason. Il va nous envoyer la deuxième pause musicale. Et après le rugby, on va passer au point foot. Do you remember first time you heard the legend in leather? The career ended with the rogue killer stopped to his fender. I'm on another bender, drunk off the power to make a coward surrender as I devour contenders. Talking foul of whoever, your head is about to get seven. Then about to with pleasure, I'm pouring out, I'm a redder. Homies, I won't forget him, so tap the bottle and pour it. Supermodels, I ignore him later on, it's like pouring reincarnation of the ripper. I give stitches and chest snippers. Cinderellas get propelled out the glass slippers. Time is ticking, giving ass whippers. How we keep the cash slipping. What? A sip of dupe spirit, you bet. I can't understand a single word you're saying. I think you have syrup brain. About to finish you like polyurethane. All that molly probably sure to drain your spinal fluid from your vertebrae. This the murder gram and I brought my murder game. My shit fire, that is why you log on it like you're a flame. And as far as boulevards, I'm talking about farmers like insurance claims. I just blew your girl away, but she on someone's blowing lean. I call that fucking Hulk Katrina. Somebody better give her a cane. And that's on everything, but she let my heavy chain. My yellow diamond shining, got a whipping like lemon meringue. Slipping in front of the gang, she slipping inside of the range. Quick to go out with a bang, it's like I threw out a grenade. When the killing will begin, you feel me pulling off your skin. I really came to get in and deliver murder grams. Turn over your ambulance, 30 bullets in advance. Candlelight and crying fans, we go in it by a landslide up behind you, testing my rifle. Give blessings to my disciples, professional. I'm a sniper like 8 miles away. Me, I'm also doing murders with dirty burners. Break them down and melt them in the furnace. Unapologetic and we're gonna cause a headache. Me and Ella about to set it. We about to murder Grammy, anyone of y'all can get it. So you might as well forget it, either way you will regret it. Cemeteries where you're headed. Yeah. Yeah. Message in the chorus, you bastards got nothing for us. The overlord is the I ain't talking about a rental car when I'm pulling the Taurus. It's Halloween, them candy bars that get you killed in the forest. We are lyrically lawless, stack of money, hardest. Start to make you forget all that slick and shit that you thought of. Blow your mind with the sword off. Just when you thought it was safe, we busting at you from the rake. They're hitting the door, ain't nothing sweet when we come into place. When I say that you ain't fucking with wine, do not mean kisses blue. But I got the potential to fucking flip when I mention with a pension to come back with a vengeance like Jack the Ripper. I'm ripping, just giving you a sample of fucking stupid like sisters do. Now when I hit the booth, I think of the days I opened. I was quick to fool, used to fly off the handle like a fucking witch's broom. I called it plucking flowers cause I was so quick to pick it. Like it's petunia, sick medulla, but thanks to Kucha, he created a monster. Spaghetti sauce and mozzarella on a tray full of pasta. You got a couple of motherfucking train killers on ya. And I'm just being as frank as Sinatra. When I be saying that I'ma keep the shit gangster as mobsters. But when you got fanatics going so crazy, they mob ya. Looking like organized crime because you can't get a mafia. And all your motherfucking enemies, they wanna off ya. Like Hoffa, and dump your body in Lake Minnetonka. That's how you know you fucking saw and you came and you conquered. Vinny Bitty, DJ stomping and making them bonkers. Now women treat me like BDK, the king, and they feed me grapes. Either way, I got more. My plate and oil you beneath my face. I better make a BC day cause your history is shady. Is they about to set it on you like Paris FM. Voilà, alors comme promis, après le point rugby et pendant qu'on est en train de fêter les 10 ans de Mon Paris FM, on a notre ami Stéphane Desenclos. Bonsoir Stéphane.
Donc, bonsoir Philippe,
de 433foot.fr. Stéphane, le moins qu'on puisse dire, c'est que nos amis anglais ont vécu une seule semaine face au sport français. Il y avait le rugby samedi, puis surtout ce match qu'on a vécu en direct sur Mon Paris FM avec Théo et puis Omar et puis votre serviteur et puis toute l'équipe de Mon Paris FM, qui a vu la victoire du Paris Saint-Germain contre Chelsea, mais c'est vrai que ça a été compliqué quand même, hein, malgré le score.
Bah oui, ça a été compliqué. On est quand même en huitième de finale de Ligue des Champions, donc avec les meilleures équipes, et notamment Chelsea était une équipe qui a terminé dans le top 8 de la phase régulière. Donc c'est vrai qu'à la base, ça peut être que compliqué, mais bon, dans une équipe de foot, il y a tout qui rentre en ligne de compte. Il y a la réussite, il y a l'effectif. On a vu la rentrée de Gvaratskhelia qui a tout changé. Oui. Donc c'est une profondeur. On peut dire c'est aussi quand même quelque part la profondeur de banc, hein, puisque tu as aussi Tanguy qui est rentré, qui fait une excellente rentrée. Faut savoir quand même que Ousmane Dembélé était plus là pendant ce finish incroyable, quoi. Donc ça faut l'avoir. Un peu de réussite aussi, bien sûr. Tout un panel de choses qui ont fait que ça s'est passé comme ça, quoi.
Donc Paris est pratiquement, donc en qualifié pour les quarts de finale. Sale soirée, Marius, pour les clubs anglais, oui, hein, dans les matchs allés des huitièmes.
Il y a eu Chelsea et l'équipe anglaise au rugby, mais il y a eu d'autres équipes aussi.
Oui, mais
et...
c'était nous, hein, je parlais par rapport à nous.
Voilà. Mais les autres équipes anglaises ont souffert, et justement, Galatasaray et Liverpool, match aller et défaite 1-0 de Liverpool.
Bon, ça encore, c'est pas trop grave, ils peuvent
rendre la situation match. Il y a de la marge encore. Par contre, là, Atalanta, Bayern et victoire, même, qui dirais-je, écrasement du Bayern, victoire 6-1 du Bayern.
Oui, c'était donc les Italiens, oui.
Newcastle, Barcelone, match nul 1-1. Mm-hmm. L'Atlético qui écrase Tottenham 5-2.
Tiens, même score que le PSG.
Score que le PSG. Le Bayer Leverkusen contre Arsenal, match nul 1-1. Ouais. Le Real Madrid contre Manchester City et grosse victoire du Real Madrid 3-0. Et Bodo Glimt, les petits poussets, qui écrase aussi, on peut le dire, un 3-0 le Sporting.
Ouais. Stéphane, un petit mot sur ces résultats et ces clubs anglais qui ont fait donc des matchs aller de façon très mitigée, aucune victoire.
Tout à fait, qu'on n'a pas eu de... Mais c'est un peu ce que je disais il y a deux secondes aussi, c'est-à-dire que la réussite aussi, elle rentre... Je pense que c'est un tout, on a bien vu qu'un match de foot, c'est un tout. Hein. Si pour ceux qui ont regardé, par exemple, Newcastle-Barcelone, Barcelone s'en sort très bien, quoi, en égalisant à la dernière minute carrément... sur un penalty valable, hein, bah, mais en tout cas qu'ils égalisent à cette en toute fin de match. Après le point commun, bah le point commun c'est que des 3-0, c'est-à-dire que quelles que soient les équipes, quoi, dans beaucoup de l'Inter doit battre Bodo Glimt 3-0 pour espérer jouer la prolongation.
Non, c'est le Sporting. L'Inter, c'est fini. Hein,
le Sporting, pardon.
Ça arrive.
Le Sporting. Le Tottenham doit battre l'Atlético 3-0 pour essayer d'aller en prolongation. Chelsea doit battre le PSG 3-0 pour essayer d'aller en prolongation. Même chose pour Manchester City. C'est vrai que bon, c'est pas le match Real Madrid de Manchester City, c'est un peu pareil, quoi, avec une énorme réussite du côté du Real, même s'ils ont quand même raté un penalty. Donc espérons que ça, pour les Espagnols, ça soit pas un regret éternel. Mais c'est vrai que je pense qu'on pouvait s'attendre quand même à voir City marquer au moins un but, quoi. Donc ça veut dire que pour moi, c'est difficile de niveler, quoi, Le Real, difficile de dire que le Real dans ce moment, quoi, le Real de cette saison est meilleur que par exemple le Manchester City. C'est pas évident. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et ça va nous donner en tout cas, on va voir les scénarios qui vont se passer, quoi. Mais ça peut donner des matchs insipides ou ça peut donner des matchs comme Juventus Galatasaray par exemple au tour précédent.
OK, bah écoute, on aura ce qui nous donnera l'occasion de bien en parler encore la semaine prochaine. Alors les résultats, Marius, pour les clubs français, il y a une victoire, une défaite.
Exactement. Et on a nos amis lillois, hein, malheureusement, qui se sont inclinés à la maison 1-0 contre Aston Villa.
C'est pas trop surprenant, malheureusement.
Mais c'est dommage. Celta Vigo, OL, hein, match nul 1-1, c'est plutôt une bonne opération.
Donc, pour reprendre une expression actuelle à la mode, ballotage favorable.
Oui, ballotage favorable pour l'Olympique lyonnais. Et en Conference League, on a eu Rijeka Strasbourg et victoire de Strasbourg 2-1 là-bas en Croatie. Hein, donc, pareil, bonne opération pour Strasbourg.
Bon, Stéphane, Lyon et Strasbourg, plutôt bien parti.
Oui, bon, à Lyon, faut voir, quoi, parce que moi, je dirais toujours que c'est du 50-50 pour Lyon, le Celta Vigo, c'est quand même une équipe vu la forme actuelle de Lyon, j'aurais peut-être pas dit ça il y a un mois, il y a même encore un mois, mais le Celta Vigo, c'est une équipe qui est reconnue pour être un peu plus solide et plus performante à l'extérieur. Donc on va voir comment ils vont se comporter. Les Lyonnais, ils ont paru un petit peu mieux contre Le Havre, mais puisque Le Havre sort surtout un match nul grâce à un énorme gardien de but, mais peut-être 51% pour Lyon. Pour ça, maintenant Strasbourg, ils partaient largement favori, mais bon, je pense que Lille, par exemple, le Pepe Genesio, comme on dit, il est capable de nous ressortir encore un coup à Villa Park et de faire l'espoir.
J'espère. Ouais. Allez, on en vient au championnat, 26e journée. Alors, il y a quand même une particularité. Le Paris Saint-Germain ne joue pas et reste leader.
Oui, reste leader. On va commencer d'abord par les Marseillais. Hein, les Marseillais qui jouent à la maison contre Auxerre. Et c'est victoire.
Ça a été difficile.
1-0 pour Auxerre sans briller. Hein. Ouais, L'OM est venu à bout d'Auxerre. Dans un vélodrome, il faut le dire, à moitié vide, les supporters ont boycotté.
Ils ne sont pas contents, les Marseillais.
Ils ne sont pas cotés.
Et il y a de quoi.
Normal, oui. Et l'OM, du coup, s'accroche au podium et laisse Auxerre sous la menace de Nantes. Bon, Nantes qui n'a pas joué, mais Auxerre qui a perdu, ça les arrange aussi.
C'était poussif comme match, j'ai pu le voir.
Ah, oui, très. Ouais. Ensuite, on a eu Lorient-Lens. Et là, c'est la surprise de ce week-end.
Pas complètement, parce que Lorient est une équipe qui reste invincible aussi chez elle depuis un certain nombre de matchs importants.
Et donc, Lorient qui gagne 2-1, malgré la possibilité de reprendre la tête pour Lens.
Je ne sais plus
Lens.
Combien de matchs, je crois que ça fait une dizaine de matchs sans
ça
défaite. 15, non, c'est ça
Non, ça fait 11 matchs. 11 matchs sans défaite. Voilà. Donc, Lorient, ça a été impressionnant. Hein. Ils sont combatifs et ils se positionnent même dans le haut de tableau. Mm-hmm. Ensuite, on a eu Angers-Nice et victoire de Nice à Angers sur le score de 2-0. Ouais. Nice qui renoue enfin avec la victoire après 6 matchs, ce qui leur permet de s'éloigner de la zone rouge. Les Angevins, eux, ils sont sur 4 défaites en 5 matchs. Ouais, ça stagne en milieu de tableau. Donc,
ils vont finir en milieu de tableau, mais attention quand même. Hein.
Ouais. Ensuite, on a eu Monaco-Brest et... Ouais. Une fois plus, victoire de Monaco 2-0. Cinquième victoire de suite pour les Monégasques qui reviennent à 4 points de l'Olympique lyonnais.
Ah, ils peuvent jouer l'Europe. Mmh.
Les Bretons restent, eux, sur 6 matchs invaincus. Malheureusement, ça se finit contre Monaco. Strasbourg-Paris FC et match nul 0-0. Bon point pris par le PFC à la Méno. Depuis l'arrivée
mieux,
de Comboiré.
Ah ouais, ça va mieux. Hein,
et je vais dire, c'est 5 points en 3 matchs. Donc, ce qui leur permet de souffler au classement. Les Strasbourgeois, eux, ils restent sur 3 matchs nuls d'affilée. Ça n'avance plus au classement et l'Europe commence un petit peu à s'éloigner. Ensuite, on a eu Le Havre-Lyon et match nul 0-0 aussi. Pourtant, en infériorité numérique, les Havrais ont tenu bon et prennent un bon point. L'OL, bon, on peut le dire, qui quand même diminué, enchaîne un quatrième match sans victoire et voit l'OM prendre 2 points d'avance pour la 3e place.
Oui.
Ensuite, on a eu Metz-Toulouse. Match spectaculaire à Metz, victoire 4-3 de Toulouse. Donc Toulouse qui avait d'abord fait le break avant de se faire reprendre puis de repasser devant grâce à un doublé de Gbo. Malheureusement pour Metz, il reste dernier. Quant à Toulouse, ça reste dans le ventre mou. Et le match du dimanche soir, Rennes-Lille et victoire de Lille impressionnante au Roizen Park, 2-1. Donc très bonne opération, comme je l'ai dit, qui met fin à une série de 4 victoires des Rennais. Lille réintègre donc le top 5 et Rennes passe 7e en embuscade à 2 points du top 5.
Alors justement, on va donner le classement. Premier Paris Saint-Germain, donc avec un match en moins, avec 57 points. Deuxième Lens, 56. Troisième Marseille, 49. Quatrième Lyon, 47. Donc on voit que c'est encore très très serré. Cinquième donc Lille, 44. Sixième Monaco et Rennes, 43 points. Et puis au milieu de tableau, donc le Paris FC, 13e avec 28 points. Et en bas de tableau, donc 16e Auxerre, 19 points. 17e Nantes, 17 points. Et 18e Metz, 13 points. Stéphane, un petit mot sur cette journée de championnat ?
Moi, j'ai pas vu tellement de surprises.
Non.
Si ce n'est effectivement Lille quand même qui gagne à Rennes, c'est la plus grosse surprise. Pour moi, je trouve pas que la victoire de Lorient contre Lens soit une surprise.
11 matchs sans défaite. Hein. Ouais, 11 matchs sans défaite.
Ouais, mais je pense que Lens est à son niveau. Quoi. Moi, bien sûr, on a regardé le match. Lens a été bousculé, n'a rien proposé quand même de très nouveau dans le jeu, quoi, nouveau ou pas nouveau, quoi, de très très construit dans le jeu. Donc c'est un peu compliqué. Moi, ça me surprend pas. Cette équipe de Lorient est extrêmement forte. A fait d'ailleurs des bons résultats. Je crois que j'ai vu apparaître une stat pendant la diffusion qu'il y a que le Paris Saint-Germain contre les 5 premiers du classement. Je crois qu'il y a que le Paris Saint-Germain qui a fait mieux que Lorient, quoi, en termes de points. Donc ça veut dire que moi, je trouve pas du tout que ça soit une surprise. En tout cas, pas une immense surprise. C'est vrai qu'on pouvait peut-être s'attendre à un match nul. Quoi. Maintenant, effectivement, après, on parlait tout à l'heure de chance, de réussite et tout, les Messins ne sont pas vernis quand même, quoi, parce qu'ils ont fait un super match, ils étaient menés 2-0, ils reviennent à 2-2, ils reprennent un but tout de suite derrière. 3, ils reviennent en toute fin de match, ils reviennent à 3-3. à peut-être 5 minutes de la fin. Et puis finalement, dans les arrêts de jeu, ils prennent un but dans les arrêts de jeu. Donc, il y a des fois, on a l'impression que le destin est un peu écrit, quoi, qu'ils n'y arriveront pas et que malheureusement, la triste histoire du FC Metz qui fait,
qui a un grand spécialiste régulièrement.
Qui a beaucoup de mal, ça va malheureusement s'arrêter là. Je ne les vois pas trop trouver une solution, surtout que, de toute façon, maintenant, pour le bas du classement, c'est clair que
c'est
la place de barragiste. Ils se battent pour la place de barragiste, parce que Nice a pris des points, Angers donc on perd beaucoup en ce moment, mais on avait pris pas mal avant. Le Havre, c'est solide. Je pense que l'idée de tout le monde, c'est de prendre la place d'Auxerre, quoi. Ce qui serait d'ailleurs triste, parce que c'est pareil, Auxerre, c'est franchement une des équipes qui joue très bien, une des équipes de Ligue 1 qui joue bien, quoi, et qui est aussi pas du tout vernie, quoi.
Allez, la Ligue 2, donc Marius, c'était la 27e journée.
Et oui, et on commence par un Nancy-Le Mans, victoire 4-2 de Le Mans. Il faut souligner de la bonne saison de Le Mans, c'est vraiment spectaculaire ce qu'ils font.
Qui revient bien, Le Mans, là.
Ouais. Montpellier-Laval, victoire de Montpellier 2-0. Guingamp, victoire 1-0. Clermont-Pau, victoire de Pau 1-0 à Clermont. Bastia-Boulogne, victoire de Boulogne à Bastia 1-0. Reims-Rodez, victoire de Rodez 2-1 à Reims. Red Star Dunkerque, victoire du Red Star, très importante cette victoire. Grenoble-Saint-Etienne, match nul 0-0.
Alors 1-0, le Red Star devant Dunkerque.
Oui, 1-0, j'ai dit. Et Grenoble-Saint-Etienne, match nul 0-0. Et ce soir, on aura un Annecy contre 3.
Ouais, ce qui donne au classement, donc 3 en tête avec 51 points. Deuxième Saint-Etienne, 50 points. Troisième Le Mans, 47, qui a eu un petit coup de mou, mais qui revient, effectivement. Ouais. Quatrième, le Red Star, 44, qui est un petit peu décroché. Cinquième, Reims et Rodez avec 43 et en bas de tableau. Donc, 16e, Amiens, 23 points. 17e, Laval, 20 points. Et 18e, Bastia, 19 points. Stéphane, impressionnante parcours de Rodez, qui est en train de remonter, aller jouer le barrage,
Oui, pourquoi pas.
Ils sont plus qu'à un point, ils sont plus qu'à 4 points,
Ouais, ils sont même à...
Ils sont à 4 points du Mans. Ils sont à 4 points du Mans et 1 point du Red Star.
Ils sont 5e ex aequo avec le Red Star, avec le Reims, pardon. Ils ont une moins bonne différence de but. Mais je ne veux pas dire qu'on n'en parle pas assez, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Rodez, par exemple, est la seule équipe des 5 grands championnats européens, Ligue 1 et Ligue 2, quoi, premier et deuxième niveau réunis, à être invaincu en 2026, par exemple. C'est la seule équipe. Si vous faisiez un classement de la Ligue 2 là en 2026, la Ligue 2 en 2026, Rodez serait en tête. Je crois qu'il devait être avec Saint-Etienne, alors peut-être que Saint-Etienne, ou je ne sais plus. Donc Rodez serait en tête, et c'est un truc incroyable. Ah, c'est le troisième plus petit budget de Ligue 2.
Et c'est peut-être pas fini.
Ils étaient en barrage il y a 2 saisons, pas la saison dernière, mais la saison d'avant. Et ils pourraient revenir en barrage, c'est-à-dire que ça ferait deux fois en barrage en 3 saisons pour un club qui est un petit club. Après, sinon, au-delà de cette équipe, il y a effectivement un petit coup d'arrêt très limite, très léger pour Saint-Etienne, qui avait pour l'instant tout gagné depuis l'arrivée de Philippe Montagnier et qui là est freiné à Grenoble, quoi. Et puis il y a aussi le drame quasiment que t'es en train de vivre Bastia. Ça s'est pas très bien passé après la défaite contre Boulogne à Furiani, ils ont perdu, il y a eu des incidents dans les tribunes.
J'allais dire c'est fréquent, malheureusement, quand ça se passe mal. Encore, c'est fréquent.
Bah oui, quand ils vivent ça très mal. On a annoncé quand même en début de saison, il y a le retour de Fred Antonetti, qui est parti depuis en tant que directeur sportif. Il y avait un projet intéressant. Le stade est fini, les travaux du stade, ils ont complètement refait leur stade qui est fini, un projet intéressant et tout, et malheureusement sportivement, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas non plus des très gros moyens le Sporting, mais je trouve c'est un peu dramatique, parce que du coup on se félicite d'avoir des clubs d'Île-de-France, de plus en plus de clubs d'Île-de-France au niveau, on va perdre si Bastia descend. On n'aura plus aucun club corse en Ligue 1 sûr. On aura donc Bastia et que Bastia en Ligue 2, quoi. Donc ça sera assez triste quand même, je trouve.
Absolument. Allez, le national, justement, on parlait des clubs d'Île-de-France. Tu vas nous donner les résultats de la 25e journée concernant les clubs franciliens. Ouais.
Et malheureusement, Paris 13, Atlético s'est incliné sur la pelouse de Orléans 2-1. Versailles qui gagne à la maison 1-0 contre Bourg-en-Bresse. Et Fleury qui gagne à la maison aussi 2-1 contre QRM.
Oui, ce qui fait que c'est Dijon qui reste en tête à 46 points, devant Rouen-Sochaux 45 points. Versailles, il y a un trou quand même, 5e avec 40 points. Fleury-Mérogis 7e avec 37 points. Et le Paris 13 Atlético 13e avec 26 points. Mais ils ont encore un match en plus à jouer. Ouais. Hein. Ils n'ont pas été exempts. Et puis donc ensuite en bas de tableau, donc Bourg-en-Bresse 14e avec 21 points. 15e Châteauroux, 20 points. 16e QRM, 19 points. Et 17e Saint-Brieuc, 14 points. Puis un petit mot sur les féminines.
Alors, on a eu...
D'ailleurs, une journée de championnat, mercredi.
D'abord, la journée de championnat, on a eu Lyon, Le Havre, victoire 3-0 des Lyonnaises. Paris FC contre Strasbourg, victoire du Paris FC 3-0. Le classico, PSG-Marseille, victoire des Parisiennes 2-1. Et Nantes contre Fleury, c'est Nantes qui gagne 2-0.
Oui, et donc classement, Lyon en tête avec 49 points, devant Nantes et le Paris FC 33 points, 4e Paris Saint-Germain 32 points qui est revenu dans les 4 équipes, donc qui pourrait jouer le Final Four, et puis 5e Fleury avec 29 points, puis il y avait
la première édition compétition de la Coupe de la Ligue, et on a eu la finale, donc c'était Lyon contre le PSG. C'est passé du côté de Lyon, hein, victoire 1-0 des Lyonnaises.
Ouais, ils peuvent faire un quadruplé, Lyon.
C'est l'habitude. Hein.
Stéphane, toi, pour qui 4-3-3-foot.fr consacre beaucoup au foot d'Île-de-France.
4-3-3-foot.fr, c'est important juste de souligner parce que l'adresse a un peu changé pour les gens qui cherchent éventuellement. C'est 4-3-3-foot.fr. Et c'est surtout la spécificité de ce site. C'est important, justement, de le préciser sur l'antenne de mon Paris FM, c'est surtout de parler du football parisien.
C'est pour ça c'est ce que je voulais en venir après le national et foot féminin.
Voilà, l'occasion de venir en parler plus longuement, mais c'est vrai que c'est un site où on peut suivre tout ce qui se passe et il s'en passe et il y a des choses, hein, c'est pas Philippe, à toi que je vais le dire, des choses très très intéressantes en Ile-de-France par le niveau des clubs en senior, hein, bien sûr, le national, Ligue 2, Ligue 1, toutes ces choses-là, mais aussi chez les jeunes, avec des très gros clubs formateurs comme Montfermeil, Sarcelles, des clubs comme ça, ou dans les Yvelines, hein, on en parlait ensemble, je vous conseille actuellement, par exemple, si vous voulez aller voir un petit bijou, un reportage sur le club de Boif, par exemple, hein, c'est au fin fond des Yvelines, je pense que pas grand monde qui nous écoute en ce moment ne connaît ce club, qui est un des meilleurs, si ce n'est, qui regarde en fait Versailles et le Paris Saint-Germain dans les yeux pour la formation des jeunes, de la pré-formation de 8 à 12 ans, un projet qui est né il y a 10 ans. Bref, c'est des choses assez exceptionnelles. Et on essaye de faire partager cette passion et ces informations sur ce site. Donc, c'est 4-3-3-foot.fr.
Voilà. Donc, pour bien
merci
compléter.
Merci beaucoup de le mettre en avant. Parce
c'est normal, Stéphane. C'est normal, hein. Et puis pour le national, il n'y a pas de changement. Et puis pour les féminines, ça y est, le Paris Saint-Germain.
Il n'y a pas de changement, si ce n'est que ce que Fleury est. Je pense que Fleury, mathématiquement, avec 37 points, est maintenu, quoi. Oui.
C'est bon.
Est sûr de jouer en. Oui. Bon, on n'avait pas tellement de doutes, hein.
Non.
Mais en tout cas, est sûr de jouer en Ligue 3, la saison prochaine. Et ce qui est quand même. C'est quand même super. Faut que ça passe aussi. Et ça devrait passer, espérons-le, pour le Paris 13 Atlético. Bon, Versailles, c'est pareil, ils y sont aussi. Versailles, d'ailleurs, qui demande, petite info que vous trouverez aussi sur le site, par exemple, qui demande à rejouer la capacité des municipales pour interpeller tous les candidats aux municipales, justement, qui veut rejouer dans son stade à Montmoreau. Pendant 4-5 ans, en attendant
le futur stade. À Saint-Quentin, en Yvelines, hein, près du Vélodrome.
Voilà, exactement.
Très bien. Merci Stéphane, rendez-vous la semaine prochaine, on aura encore beaucoup de choses à se raconter. Hein. On a une belle semaine de Coupe d'Europe qui arrive.
Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous.
Merci Stéphane. Voilà. Bon, Myriam, vous voyez, hein, c'est chargé, le rugby, le foot, on aime tous les sports.
Sacré programme.
Est-ce qu'on peut se spécialiser dans votre sport? Est-ce qu'on préfère jouer les doubles? Est-ce qu'on peut, comme au tennis, il y a des joueurs-joueuses qui sont plus attirés vers le double et qu'on fait meilleure carrière en double?
Personne ne fait uniquement le double. C'est, en général, on fait les trois tableaux. Simple, double dame ou double homme et double mixte. Mais personne ne va jouer uniquement les doubles.
D'accord, ok. On ne se spécialise pas. Vous, ça vous arrive de faire des doubles ?
Bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, dans un mois, on a les premiers championnats de France de doubles qui se dérouleront au centre sportif Arthur Ashe à Montreuil.
Oh, quel nom, Arthur Ashe en plus.
Voilà, donc les premiers championnats de France. Et trois semaines après, c'est les championnats du monde de doubles, cette fois à Holbæk au Danemark. Mm-hmm.
Et le partenaire ou la partenaire, c'est qui ?
Eh bien, ça dépend soit des affinités, soit du niveau. Donc,
Ah d'accord, il n'y a pas un attitré ou une attitrée.
Non, bien sûr, on peut changer à chaque tournoi et voilà, ça tourne. C'est bien aussi de jouer avec différents partenaires.
Je n'ai pas demandé le prix de la licence, c'est le prix d'une licence de badminton, quoi.
C'est même un peu moins, c'est juste 15 euros en fait pour participer en France. Pour participer au circuit national, donc c'est 15 euros.
Ça, c'est vraiment pas cher. Hein,
non, c'est pas cher. Et après, par contre, pour chaque tournoi, il faut forcément payer son inscription. Oui.
Et puis, on va le dire, on va le rappeler, ce qui coûte le plus cher dans votre sport, matériel, c'est fatalement le matériel. Il faut avoir...
Matériel et surtout, après, gérer les déplacements et l'hébergement, c'est ça.
Bah oui, ça, c'est...
Est-ce qu'il y a des jeunes scolaires qui viennent un petit peu s'initier à votre sport? Est-ce que vous faites vous-même
Il y a des championnats de France universitaires.
Ah oui qui, voilà, oui, quand même.
C'est ça. Donc oui, ça commence parce qu'il y a pas mal de profs de PS parmi les joueurs de raquettes longues. Donc ils font connaître ça à leurs élèves. Donc oui, on a forcément un bon vivier d'étudiants de plus en plus, même sur Paris. Donc, et il y a aussi des jeunes qui commencent dans certains clubs, là, les 9 clubs dont on parlait. En France, qui commence à s'initier, donc à des catégories U13, U14, U16, U18, donc ça commence à venir.
Très bien. Vous avez des réseaux sociaux, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Claude des réseaux sociaux. Hein, ça aide beaucoup les champions et les championnes maintenant.
Bien sûr.
Attention quand même au Twitter, des fois il y a des méchants.
Oui, Twitter un petit peu moins, plutôt Instagram, LinkedIn. Voilà. Donc, oui. Pour moi, Myriam Enmer, et sinon Raquetlon France, vous avez toute l'actualité.
Oui.
Et Raquetlon FIR, donc Raquetlon FIR. Tout attaché, ça c'est pour la Fédé internationale.
D'accord, et puis on va lancer un appel, s'il y a effectivement un partenaire qui veut venir...
Un mécène,
donc,
si quelqu'un a de l'argent et est intéressé dans la raquette, n'hésitez pas.
Ouais, vous ferez de la promo pour son entreprise.
Ah bah oui, sur tous les réseaux, je peux mettre les logos sur les t-shirts, de la promo dans les podcasts, les émissions radio, comme ça, il n'y a aucun souci.
Bon, c'était votre première radio, ça s'est bien passé. Un petit mot quand même sur un club quand même sympa qu'on connaît, le Stade Français, vous y êtes bien?
Ah oui, j'y suis très bien. Hein, oui, oui.
Vous la croisez de temps en temps, Amandine Bouchard, non?
En fait, là, il y a un nouveau concept qui se crée, c'est le Stade Français Campus Élite, donc pour les athlètes élites.
Ah bien,
Et la première session s'est déroulée en décembre, et donc on avait Amandine Bouchard qui est venue dire quelques mots pour nous présenter. Donc,
elle a du peps, hein. Elle a du peps.
Oui, on était très, très contents de l'avoir juste en face de nous. C'était un honneur pour nous, une si grande championne.
Eh bien, très bien. Merci en tout cas.
Merci à vous pour l'invitation.
Cette émission, vous pourrez la retrouver en podcast, hein, comme toutes les émissions pratiquement des semaines précédentes. Bon, il en manque une, mais enfin bon, c'est comme ça. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à toutes et à tous. Merci à Jason d'avoir été aux manettes ce soir. Et puis, on va finir en musique comme d'habitude. Et puis, on laisse maintenant la parole à nos copains au bout du foot qui vont aussi avoir beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Belle soirée à toutes et à tous. Plus que jamais, vive le sport, vive la radio. C'était les 10 ans aujourd'hui. Et puis, on finit en musique et on se retrouve naturellement la semaine prochaine. Tiens, on parlera des Paralympiques la semaine prochaine, entre autres, hein, Vanessa.
Exactement,
allez,
Philippe.
Allez, belle soirée.
À la semaine prochaine.
Je voulais faire un film. Je l'ai fait, je n'ai attendu après personne. Je l'ai fait, j'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits. Alors j'ai écrit mon propre scénario, dépeint nos vies loin de leurs clichés, leurs dérisions, leurs sarcasmes. Je me suis approché de nos réalités, donc je me suis éloigné de leurs fantasmes. Ce qui nous divise et ce qui nous soude, je le sais, je le pleure, je le crie, je le rappe depuis Boys in the Hood. Oui, tu connais le thème, la banlieue racontée par ceux qui la connaissent et qui l'aiment, sans misérabilisme et sans la magnifier. J'ai montré ce qui nous tue, mais sans le glorifier. J'ai mis en image nos rires, nos sourires, nos pleurs, nos violences, nos peurs, nos silences, nos doutes, nos espoirs, nos désillusions. Ceux qui deviennent avocats et ceux qui vont en prison. Ceux qui cassent, ceux qui réparent, ceux qui s'arment de connaissances et ceux qui portent le Kevlar. ceux qui veulent changer, mais trop tard. Ceux qui laissent leur rêve crever sur un trottoir. Celles qui patientent, celles qui soignent, celles qui guident et dont l'amour déplace des montagnes. Celles qui offrent un horizon apaisé loin des flammes. Ici on grandit et on mûrit dans les bras d'une femme. Ceux qui suivent le troupeau, ceux qui disent non, ceux qui foncent la tête baissée et ceux qui posent des questions. Ceux qui s'émancipent et ceux qui restent prisonniers d'une caricature d'eux-mêmes que d'autres ont façonné. Chaque décision peut avoir un prix. On a plusieurs façons de mourir, on n'a qu'une seule vie. Parfois nos erreurs ne nous laissent pas le temps. Tu sais quoi, on fait des choix, mais ces choix nous font. On n'est pas nés malhonnêtes, fils de parents généreux, malgré des revenus modestes. La France nous juge sans même nous connaître. Des larmes sur les pommettes, on ne fleurit pas aux pommettes. Derrière des larmes, des naissances, des sourires, des décès, des armes. On n'a jamais envié la vie des quartiers huppés, vu qu'on marche tous vers le cimetière, même en traînant des pieds. Nos banlieues sont complexes, nos colères ont une histoire, nos désespoirs un contexte. Je n'attends pas d'eux qu'ils s'apitoient sur nos vies, mais je veux nous rendre l'humanité que les médias nous relient. Je viens des quartiers meurtriers où les hommes se cachent pour pleurer, où les femmes sont des piliers. Où on oscille entre le bien et le mal. Soit tu finis comme Demba, soit tu deviens Souleyman. Bon, le ça, c'est une photographie. Sous l'œil de Laïla, si, c'est une échographie. On n'a pas frappé, on a défoncé les deux poids. Personne n'en voulait, on a pété le score.
Mon Paris est fait.